À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne, ancienne diplomate et féministe.
Troisième épisode, avec les sœurs Beauvoir. Bonsoir Claudine Monteil.
Bonsoir Caroline Brouet.
Hier, vous nous avez parlé de votre apprentissage de la diplomatie, de ces années de voyage, de formation intellectuelle. Vous nous avez parlé de cette époque où vous avez été maoïste et vous avez rencontré Jean-Paul Sartre, qui vous a conduit à Simone de Beauvoir. C'est de Simone de Beauvoir et de sa sœur Hélène que j'aimerais que nous parlions ce soir, puisque je crois que c'est la grande ou les grandes rencontres de votre vie.
Les rencontres de Simone de Beauvoir, j'ai 20 ans, et Hélène de Beauvoir, j'aurai 25 ans. Ce sont parmi les grandes rencontres de ma vie. D'abord, concernant Hélène de Beauvoir, l'artiste peintre, la sœur cadette de Simone de Beauvoir, qui a réalisé une œuvre de 3000 tableaux et gravures, qui a eu des expositions dans le monde entier.
On est d'ailleurs là, chez vous, devant un tableau réalisé, devant deux tableaux. Il y en a un de sa sœur Simone de Beauvoir, avec un chemisier jaune et ses yeux bleus, et sa chevelure attachée en chignon noir, réalisé donc par sa sœur Hélène. Et en face de vous, un deuxième tableau d'Hélène.
Oui, qui représente Venise, puisqu'elle a vécu à Milan pendant 7 ans. Son mari a été directeur de l'Institut culturel français de Milan. Et elle a connu la Callas. Et donc... Pourquoi je parle de la sœur d'abord? Parce que c'est en lisant les mémoires de Simone de Beauvoir, La force des choses et la force de l'âge, que j'ai eu envie de rencontrer sa sœur, par les portraits chaleureux qu'elle y faisait. Mais surtout, Simone de Beauvoir, depuis mon enfance, j'entends parler d'elle depuis que je suis une petite fille.
Oh, même peut-être avant, puisqu'il faut rappeler que le deuxième sexe, grand livre de Simone de Beauvoir, qui a un succès retentissant, a été édité en 1949, année où votre mère était enceinte de vous et où elle le lisait déjà.
Elle le lisait pendant qu'elle me donnait la vie. Enfin, elle m'a donné la vie tout en étant en train de finir de lire le deuxième sexe. Ce qui, compte tenu de mon engagement féministe par la suite, à l'âge de 20 ans, Simone de Beauvoir en a 62. Nous avons deux générations. Nous avons une différence d'âge de deux générations. C'est-à-dire que je suis un peu, pour Simone de Beauvoir, une très jeune fille. Une jeune fille, un peu une gamine, sur le plan affectueux. Mais quand j'ai raconté à Simone de Beauvoir comment ma mère m'avait donné vie en lisant le deuxième sexe, je lui ai dit, d'une certaine manière, Simone, je suis l'enfant du deuxième sexe. Et elle m'a répondu, l'enfant terrible, Claudine.
Vous racontiez aussi, dans une émission précédente, Claudine Monteil, comment votre père vous avait offert le deuxième sexe quand vous aviez 15 ans. Alors, c'était pas le deuxième sexe de la maison, c'était pas le livre qu'avait lu votre mère, c'était un autre livre?
Non, c'était le livre qu'avait lu ma mère. C'était l'exemplaire de ma mère qu'elle avait lu quand elle était enceinte de moi. Et donc, il m'a effectivement...
Donc, ils s'étaient concertés tous les deux pour vous offrir ce livre-là.
Ah, je pense qu'ils s'étaient concertés, mais il faut dire que nous parlions de beaucoup d'œuvres de Simone de Beauvoir et qu'elle publiait au même moment un petit livre magnifique que je recommande toujours, qui est Une mort très douce, qui est l'histoire du cancer de sa mère, de la souffrance physique de sa mère à l'hôpital, quand on refuse de lui donner des antidouleurs. Et il ne faut pas oublier que Simone de Beauvoir s'est beaucoup battue pour que l'on donne enfin des médicaments antidouleurs dans les hôpitaux, ce qu'on donnait très peu à l'époque. Donc mon père m'a vraiment suggéré de lire le deuxième sexe, alors que j'étais persuadée à 15 ans de tout savoir sur la condition des femmes, de par ma mère, mais en réalité, ça m'a bouleversée. Mais ce qui m'a plus bouleversée encore, peut-être, c'est véritablement la lecture de ces deux tomes de mémoire dont on parle moins maintenant, qui sont La force des choses et La force de l'âge, parce que Simone de Beauvoir raconte sa vie quotidienne, ses engagements pour la décolonisation, notamment de l'Algérie, au péril de sa vie, puisque quand même Sartre et Simone de Beauvoir ont dû quitter leurs appartements respectifs pendant 2 ans. Ils ont vécu dans la clandestinité 2 ans. Ils ont dû changer d'appartement puisque l'appartement de Sartre avait été plastiqué. Celui de Simone de Beauvoir recevait des menaces de bombes. Donc, véritablement, il y avait aussi tous ces échanges, tous ces voyages où ils rencontraient des intellectuels, où il y avait des peuples entiers qui étaient là pour les accueillir. Vous savez, par exemple, qu'au Japon, quand ils sont allés au Japon, eh bien, ils avaient prévu de parler dans une université et il y avait 3000 étudiants se sont inscrits. Et du coup, quand ils sont sortis de l'université, eh bien, ils ont pris leur train en retard. Or, comme m'a dit l'ancien directeur général de l'UNESCO, qui était japonais, il m'a dit « j'étais étudiant, j'étais là, c'est la première fois dans l'histoire qu'un train japonais part en retard et attend que des personnalités arrivent pour partir ». Donc c'est pour dire quand même l'aura sur la justice et la liberté que représentait Simone de Beauvoir pour moi.
Il y a donc la force des choses, il y a la force de l'âge, il y a aussi les mémoires d'une jeune fille rangée que vous avez lues. Et pourtant, Claudine Monteil, il me semble en tout cas que c'est quand même le deuxième sexe qui reste le grand œuvre de Simone de Beauvoir, celui qui a traversé les âges. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qu'il n'y a peut-être pas dans les autres? Qu'est-ce que c'était au fond et qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui, pour les plus jeunes de nos auditeurs et de nos auditrices, que le deuxième sexe pour vous?
Le deuxième sexe, c'est vraiment le livre qui ose écrire ce que l'on n'osait pas, même pas dire ou même pas penser. C'est-à-dire que c'est un livre qui déculpabilise et qui libère. Le deuxième sexe, c'est le livre où le mot avortement apparaît pendant quelque temps et où il va disparaître après. Quand je dis disparaître, c'est que le deuxième sexe paraît en 1949, il est ensuite publié dans le monde entier. Mais le mot avortement n'est pas prononcé. C'est le mot le plus tabou de la société française. Il ne réapparaîtra qu'en 70. Le deuxième sexe, c'est montrer comment les femmes sont condamnées à être obligées de se maquiller, de s'habiller bien et de rappeler que les femmes ont des dépenses supplémentaires que les hommes à cause de cela. C'est plein d'événements de ce style, c'est plein de remarques sociologiques. C'est une bible et vous l'ouvrez n'importe quand, sur n'importe quel chapitre, et vous trouvez des réponses. Et pour vous dire à quel point c'est un livre extraordinaire, c'est que quand j'allais aux États-Unis, je continuais à aller aux États-Unis dans les années 70 tous les ans, je militais également dans le mouvement féministe américain, j'ai fait des conférences dans tous les États-Unis, dans des coins reculés. Eh bien, il y avait toujours une femme qui venait me voir à la fin et qui pleurait et me disait « La lecture du deuxième sexe a changé ma vie, c'est pour ça que je vous serre la main, car vous avez serré la main de Simone de Beauvoir ». Eh bien, ce que je veux dire, c'est que le livre a un peu vieilli par certains côtés, mais il y a encore 80 pages sur l'histoire des femmes. C'est un des premiers livres qui mentionne aussi l'histoire des femmes à travers les millénaires, avec les oppressions, avec la manière de les gommer, qui sont des pages, à mon avis, fondamentales pour aujourd'hui.
Alors racontez-nous dans quelles circonstances vous avez fait la rencontre de celle qui est devenue et qui était déjà l'idole de votre jeunesse.
Alors en fait, donc j'ai été dans le mouvement maoïste et puis avec Marceline Loridan Evans, qui était très engagée dans le mouvement maoïste et très engagée au MLF également, avec nous Marceline Loridan qui a été donc comme
ancienne déportée.
En même temps que Simone Veil, dans le même camp de concentration de Simone Veil, meilleure amie de Simone Veil jusqu'à sa mort, Marceline Loridan-Evans, nous nous étions liés d'amitié, nous nous connaissions par le mouvement maoïste, et elle me parle, nous passons devant cette annonce d'une réunion qui avait lieu aux Beaux-Arts, et qui s'appelait MLF. C'était un mois après la création du MLF.
Mouvement de libération des femmes.
Et donc, j'étais encore dans le mouvement maoïste et mes dirigeants hommes me disent « Tu vas pas aller à cette réunion parce que c'est une bande d'hystériques. » Alors, j'en parle à Marceline et je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aimerais bien aller voir. » Elle me dit « Je t'accompagne. » Et donc, le lendemain, nous y allons toutes les deux. J'appréhende. On m'a tellement dit de mal de ces féministes. Et je tombe sur des femmes, des jeunes femmes drôles, pétillantes et formidables. Et immédiatement, je tombe, bien sûr, sous le charme. Je suis libérée. Immédiatement, je me sens...
Vous sentez à votre place, là.
Je me sens à ma place. Et c'est là où Anne Zelinsky, qui est une des grandes fondatrices du MLF, Anne Zelinsky vient vers moi et me dit « Ah ben, je te cherchais parce que Simone de Beauvoir veut te rencontrer. » Alors, vous savez, quand on vous dit que votre idole veut vous rencontrer, vous manquez de tomber dans les pommes.
Vous avez 20 ans.
Et... J'avais 20 ans, vous comprenez, quoi. C'est pas évident. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Ben voilà, nous sommes un petit groupe du MLF. On se réunit tous les dimanches après-midi chez Simone de Beauvoir à 17h, soit à l'heure, dimanche prochain. Et en fait, c'était parce que Sartre lui avait dit que j'avais milité avec des femmes ouvrières, que j'avais monté un petit groupe féministe, ce qui était exact, avec quelques femmes ouvrières. Et donc, c'était la suite, en fait. C'était Sartre qui avait dit, il faut que vous ayez la petite. La petite, c'était moi, la petite, puisque nous avions 45 ans de différence d'âge. Et donc, c'est ainsi que je suis arrivée, un dimanche après-midi.
Rue Schoelcher.
Et que, on m'avait dit, 17h et soit à l'heure, elle n'aime pas les gens en retard. Donc, à 5h moins 5, je suis devant chez elle. Mon cœur bat, c'est l'idole de ma vie que je vais rencontrer. Et à 17h pile, je sonne. Et là, ouvre la porte, une femme, de la même taille que moi, c'est Simone de Beauvoir, et qui me dit, vous êtes en retard. Et je lui dis, excusez-moi, mais il me semble qu'il est 17h, mais pas du tout, regardez. Et elle avait un affreux petit réveil matin, très grand, digne de Mickey ou de Snoopy, ce que vous voulez. Enfin, un affreux petit réveil matin qui avançait de 7 minutes. Et bien sûr, les copines avaient oublié de me dire qu'il avançait de 7 minutes. Mais je
vous ai retenu la leçon.
J'ai retenu la leçon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis retrouvée là, la plus jeune, la gamine. Enfin, vraiment, parce qu'il y avait d'un côté, sur le divan, Gisèle Halimi. Il y avait Delphine Seyrig sur un fauteuil, Adelinski,
Monique Wittig
et Cathy Bernheim et Liliane Candel et Maryse Lapergue. C'était vraiment le noyau du MLF.
Vous les connaissiez déjà, vous?
Oui, je les connaissais, je les avais vus, mais je les connaissais pas bien. Enfin, bon, c'était des copines, on avait fait quelques réunions, quoi. Mais c'était ces femmes-là qui avaient été quand même place de l'Étoile sur la tombe du soldat inconnu.
De la femme du soldat inconnu.
La femme du soldat inconnu en août, un mois avant, quoi. Mais je les connaissais un peu, mais pas beaucoup. Mais il y avait une telle liberté de parole, d'expression, qu'on avait l'impression de toutes se connaître.
Et lors de ces premières réunions, avant même, je crois, de rencontrer Simone de Beauvoir, vous allez me corriger si je me trompe dans la chronologie, Claudine Monteil, mais vous avez assisté lors d'une de ces premières réunions, donc, à la création de l'hymne des femmes.
Alors en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'hymne avait déjà été créé, mais donc on a eu l'impression de créer l'hymne de libération des femmes, mais en réalité, on l'a répété. On a changé de trois mots,
d'accord.
Il avait déjà été écrit.
D'accord.
Mais ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'était que dans cette première réunion, moi je m'installe avec en plus, je commets une bévue parce que il restait qu'une place à côté de Gisèle Halimi. Et donc, je m'assieds sur le divan à côté de Gisèle Halimi et je sens brusquement quelque chose de dur derrière moi, comme du bois. Alors, je me retourne, n'oubliez pas que j'étais déjà en retard.
Oui.
Alors, je me retourne et je découvre un magnifique tableau représentant un scribe égyptien. Et Simone de Beauvoir me dit, bah oui, poussez-le, Nasser me l'a offert, il a 3000 ans. Bon, vous l'avez pas abîmé, poussez-le. Bon, donc ça commençait, vous savez, ça commençait pas très bien. Mais ce qui était terrible, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, je vais pouvoir regarder mon idole, l'admirer. Et qu'à ce moment-là, elle me dit, bon, puisque vous êtes en retard, Claudine, et que Sartre m'a dit que vous deviez venir, alors donnez-moi votre stratégie pour faire parler de l'avortement. Et à ce moment-là, il fallait répondre, réagir aussi vite qu'elle. Elle avait quand même 62 ans, elle était une des femmes les plus célèbres au monde. Donc, j'étais devant mon icône, donc j'ai réagi rapidement. J'ai dit, il faudrait faire ceci, cela. Mais enfin, vous savez, j'ai imaginé comme ça. Elle a dit, oui, bon, c'est une bonne idée. Bon, on continue. Gisèle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'était pour vous dire que plus tard, m'a dit sa sœur et Michel Vian, qui était aussi très proche de nous, qui était au MLF, Michel Vian m'a dit, heureusement que tu lui as répondu du tac au tac, parce que Simone de Beauvoir, il fallait lui répondre aussi vite qu'elle ne vous parlait. Elle vous traitait d'égal à égal, mais si vous ne parliez pas aussi vite qu'elle, si vous n'aviez pas l'esprit aussi rapide, vous ne l'intéressiez plus.
Vous avez manifestement attiré son attention, Claudine Monteil, puisque c'est instauré une relation intime. complice, un long compagnonnage de 16 ans jusqu'à la mort de Simone de Beauvoir en 1986. Oui. De quelle nature était votre relation ?
Alors, notre relation était un peu plus intime qu'avec les autres femmes qu'elle avait, intime, enfin disons proche, parce que j'étais la plus jeune, la Benjamine. Donc, c'était avec elle qu'on organisait des négociations avec la police et les forces de l'ordre. Parce que quand on organisait des manifestations, on sortait...
Travail de diplomate aussi, alors.
Oui, c'est ça. C'était un travail de diplomate. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 70, on n'est que 2 ans après mai 68. C'est-à-dire que le pouvoir en place, c'est Georges Pompidou, et il n'a qu'une seule peur, c'est que recommence mai 68. Donc, il vaut mieux leur faire comprendre qu'on ne va pas aller casser des bâtiments, qu'on ne va pas être violent. Et, je veux dire, ils sont tétanisés. Le pouvoir en place est tétanisé. Et donc, c'est avec Simone de Beauvoir que je négocie et que je vais négocier. Je suis habillée en blue jean et j'ai les cheveux longs. Enfin, je ne fais pas vraiment grande négociatrice. Je fais très, très jeune. Et donc, avec Simone de Beauvoir, on va ensemble négocier pour que les manifestations de femmes se passent dans les meilleures conditions. Souvent, on n'allait pas négocier du tout. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. On les prend par surprise. Mais enfin... Beaucoup de choses de ce genre se passent ensemble, toutes les deux, de même qu'elle m'envoie régulièrement dans des réunions pour la représenter ou des interviews, parce qu'elle trouve que j'arrive à m'exprimer. Et donc, elle m'envoie pour des interviews, ce qui fait que des journalistes sont furieux quand ils voient arriver une jeune femme de 20 ans ou 21 ans qui ne ressemble pas vraiment à Simone de Beauvoir. Mais je leur dis, je représente Simone de Beauvoir. Elle est vraiment... On a une relation comme ça qui s'implique. Et en même temps... Je décide de faire une maîtrise de lettres sur elle, sur son œuvre, sur son engagement, puis un doctorat, tout en poursuivant mes études pour faire d'autres choses. Et donc, on se voit régulièrement pour parler de son œuvre. Et ce qui est quand même un peu croustillant ou un petit peu amusant maintenant, parce que ça m'arrive maintenant avec des jeunes féministes, c'est que je lui reproche que ses livres ne sont pas assez féministes sur certaines choses. Donc, je lui fais des commentaires en lui disant « Là, Simone, c'est pas assez féministe. Vous auriez peut-être pu faire un peu plus féministe. » Enfin, je lui donne de leçons, quoi. J'ai 20 ans, et de temps en temps. Et elle aurait pu me répondre du tac au tac. Mais non, elle le faisait avec beaucoup de gentillesse, alors qu'elle avait quand même une apparence assez froide, apparemment. Et elle me disait, mais non, parce que vous savez, Claudine, la vie n'est pas si simple, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc, elle m'a aussi appris de la vie. Et donc, on discutait. Et en même temps, dans les mémoires tout compte fait, qu'elle va publier alors qu'elle milite avec nous, elle reconnaît que nous l'avons obligée à aller plus loin que la conclusion du deuxième sexe. Dans la conclusion du deuxième sexe, elle dit qu'il suffira d'un changement de gouvernement, d'un changement de société pour que les droits des femmes soient enfin, que les femmes soient vraiment les égales des hommes. Et nous, on lui dit, écoutez Simone, on sait ce qui se passe en URSS, on sait que c'est pas vrai du tout pour les femmes russes communistes, qu'elles n'ont pas du tout les mêmes droits que les hommes. On n'y croit plus. Pour nous, il faut changer le monde tout de suite et peu importe le parti politique. C'est ça, c'est changer le monde tout de suite. Et d'une certaine manière, personnellement, je considère que la grande réussite de mai 68, c'est le fait que ça nous a autorisé, on s'est autorisé à changer le monde tout de suite, comme c'était vraiment le slogan de mai 68. Changer le monde tout de suite, sans attendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et Simone de Beauvoir, dans Tout compte fait, dit qu'elle s'est ralliée à notre position, que c'était nous qui avions raison, que la conclusion du deuxième sexe n'allait pas assez loin. Mais elle est écrite, sa conclusion est écrite dans un contexte historique différent que celui de 1970. Mais ça, quand on relit Simone de Beauvoir, elle critique la publication, l'écriture de chacun de ses livres dans un livre suivant de mémoire. Elle a une capacité d'autocritique, d'intelligence là-dessus, que je trouve remarquable et dont de nombreux écrivains pourraient s'inspirer, de nombreux philosophes. Et donc, elle l'a écrit, elle a dit, c'était la jeune génération. C'est pour ça que quand des jeunes féministes prennent des sujets à bras le corps auxquels nous n'avons même pas pensé, je leur dis, vous avez dépassé nos rêves. C'est le plus grand bonheur pour moi, c'est les jeunes féministes. Enfin, il y a des problèmes aussi, mais je veux dire, elle pense à des choses que nous n'avons pas eu le temps de penser.
Claudine Monteil, de quel œil, puisque vous étiez encore toute jeune et que vous aviez gardé des relations très fortes et assidues avec vos parents à ce moment-là, de quel œil vos parents voyaient-ils non seulement votre engagement militant au MLF, mais cette relation avec Simone de Beauvoir ?
Alors du coup, du jour au lendemain, on n'a plus jamais parlé de Sartre et Simone de Beauvoir à la maison. Et je pense qu'ils ont eu raison. Je crois qu'ils ont voulu me laisser l'espace d'une amitié qui ne serait pas abîmée, assombrie par la présence parentale. De la même manière, en 16 ans, Simone de Beauvoir ne m'a parlé qu'une ou deux fois de mes parents. Quand elle est venue chez mes parents, ils n'étaient pas là, mais quand elle est venue déjeuner à la maison. Mais c'est pour dire que je trouve ça formidable de leur part. J'étais en train de me construire. Et avec le poids de ce qu'ils représentaient, je veux dire, j'aurais été écrasée.
Quelles étaient votre relation à Jean-Paul Sartre à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, on se voyait de temps en temps, on se croisait, mais j'ai arrêté de le voir plus souvent. Pourquoi ? Parce que quand même, le monde de Sartre et de Simone de Beauvoir était très minuté, très cloisonné avec des clans. C'était la fin de la vie de Sartre. Il y avait une petite bande d'arrivistes autour de lui qui étaient très méchants, qui étaient mes anciens dirigeants Mao. Donc je les connaissais de l'intérieur. Je savais qu'ils étaient des petits arrivistes et qui ont tout fait pour diviser, séparer Simone de Beauvoir et Sartre, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire. Mais c'est pour dire que c'était une ambiance épouvantable. Or, moi, ce qui comptait pour moi, c'était Simone de Beauvoir. Donc, une ou deux fois, j'ai été invitée à déjeuner par lui et par Michel Vian, très gentiment, de les rejoindre à la coupole. Et à chaque fois, j'y suis allée pour leur dire « je ne peux pas rester, je vous remercie ». Parce que je ne voulais pas une seconde que Simone de Beauvoir pense que je jouais à la courtisane derrière son dos ou que j'essayais de m'immiscer dans un clan, d'avoir plus d'importance que je n'avais. Mon affection, c'était elle.
Et de la même façon, disiez-vous qu'elle ne vous a jamais parlé de vos parents, il y a une personne dont elle ne parlait pas, mais qui était pourtant très importante et qui est devenue très importante à vos yeux, Claudine Monteil. C'est cette femme que vous surnommiez, qu'elle surnommait, je ne sais pas, Totem et Tabou.
Mais c'est Hélène de Beauvoir.
Et c'est Hélène de Beauvoir.
Ah oui. Alors, il y avait une femme effectivement très importante que nous surnommions. Alors, au MLF, dans le petit groupe du dimanche, on sortait épuisé parce que ça durait 2 heures et que Simone de Beauvoir, elle parlait aussi vite qu'une mitraillette. Elle parlait à toute allure et qu'il fallait penser aussi vite qu'elle. Donc, quand on sortait au bout de 2 heures, on était épuisé. On allait prendre un chocolat ou un café. Et on disait toujours, elle nous a encore jamais parlé de sa sœur, Hélène, qu'elle a surnommée Poupette dans ses mémoires. Et donc, on l'avait surnommée la sœur de Simone de Beauvoir, Totem et Tabou. Et puis, 5 ans après le MLF, on est en 75, 5 ans après, je dois aller inaugurer le premier foyer, centre de femmes victimes de violences qui s'ouvrait à Strasbourg. Et c'était des copines féministes qui m'avaient demandé de venir. Et à ce moment-là, Simone me dit, mais Claudine, si vous allez à Strasbourg, ma sœur habite à côté de Strasbourg et elle voudrait vous rencontrer. Totem et Tabou. Enfin, je vais rencontrer cette sœur qui a l'air si artiste peinte, qui a l'air si chaleureuse.
Cadette, hein, deux ans de moins.
2 ans de moins, cœur cadette. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir devient blême et elle me dit oui, maintenant elle veut rejoindre le MLF. Dans le genre, qu'est-ce qui lui a encore pris ? Ben, je lui dis, c'est très sympathique, Simone. Bon, alors j'y vais et on tombe littéralement l'une. Vous savez, les coups de foudre en amour, on connaît. Mais les coups de foudre en amitié existent autant que les coups de foudre en amour. Et donc, entre Hélène et moi, pendant ce week-end-là, on ne s'est pas quitté, ça a été le coup de foudre en amitié. Donc, je rentre à Paris et Simone m'appelle, elle me dit « Venez me raconter. » Elle voulait savoir. Elle n'était pas très heureuse. Alors, je lui raconte et elle me dit « Oui, enfin bon, alors elle veut rejoindre le MLF maintenant. Enfin bon, oui, d'accord. Oui. » Elle prétend même qu'elle a été féministe avant moi. Et alors, elle n'était pas contente. Et je lui dis, naïve, vous savez, j'ai 25 ans, je suis pas encore au fait des relations entre les deux sœurs. Je lui dis, mais c'est vrai, Simone, elle m'a expliqué, elle a été féministe avant vous. Alors là, elle devient absolument livide et elle me fait, ah oui, non, mais alors là, c'est un comble. Non, mais maintenant, ma sœur a été féministe avant moi. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Voilà, c'était pour vous dire que la petite sœur cadette, elle avait intérêt à rester à sa place de cadette. Elle était mariée à un homme qui avait été très courageux pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était devenu diplomate. Donc, elle était devenue bourgeoise. Ma petite sœur, c'est une bourgeoise. Elle n'est quand même pas été féministe avant moi.
Vous disiez, Claudine Monteil, qu'à cette époque-là, quand vous aviez 25 ans, vous n'étiez pas encore au fait des relations entre les deux sœurs. Depuis, vous l'avez été. Vous avez même écrit un livre sur les sœurs Beauvoir. Hélène, par rapport à Simone, c'était la mal-aimée ? Comment expliquer ces relations?
Alors d'abord, la pauvre Hélène. D'abord, Hélène était aussi ravissante que Simone de Beauvoir, en blonde, alors que Simone de Beauvoir était brune. Il faut vous dire quand même que ce sont deux femmes extrêmement belles quand elles sont jeunes. Elles sont belles jusqu'à leur mort, mais elles étaient vraiment d'une très grande beauté. Tout le monde était sous le charme. Parce qu'elles étaient belles, et en plus, Hélène, elle avait un charme, une gaieté qui était absolument extraordinaire. Alors, Hélène a été la mal-aimée de sa mère. C'est Simone qui lui apprend à lire et à écrire, qui la protège, qui la défend, qui permet qu'elle peut passer le baccalauréat. Sinon, elle ne peut pas. Ensuite, Simone de Beauvoir, jeune agrégée, un tout petit salaire, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des grands salaires. Ce n'est pas d'ailleurs aujourd'hui des grands salaires. Enfin, disons vraiment, les salaires sont assez faibles. Simone coupe en deux son salaire pour en donner la moitié à Hélène et pour louer un atelier de peintre dans le 5e arrondissement. Elle achète l'étoile, elle achète les couleurs pour sa sœur, elle fait tout pour sa sœur et ça va être ainsi jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, quand Hélène a des expositions à l'étranger, Simone dit « Je t'offre le billet d'avion pour toi, pour Lionel, son mari, et je peux aider pour les tableaux. » Il y a une générosité constante. La relation change quand Sartre et Simone se rencontrent. D'abord, Sartre est heureux d'avoir une petite sœur, car Sartre n'a pas eu de sœur. Et donc, il est content d'avoir Poupette, enfin Hélène, comme petite sœur, entre guillemets. Bon. Mais Sartre est beaucoup plus méprisant, en réalité, que Simone de Beauvoir. Et donc, il va tout de suite cataloguer Hélène comme une moins qu'intelligente qu'eux, moins brillante qu'eux. Et dans les lettres, cela va se sentir, quand en plus, elle épouse un résistant, qui est un ancien élève de Sartre, qui devient diplomate. Alors là, Hélène est rentrée dans la bourgeoisie, entre guillemets, donc ce qu'elle fait ne peut pas être prise au sérieux. Et pourtant, elle va faire réaliser des œuvres d'art, des peintures, elle va vivre beaucoup de choses passionnantes. Donc, quand je la rencontre en 1975, Hélène de Beauvoir n'a pas d'enfants, pas de petits-enfants, et moi, je n'ai quasiment pas connu mes grands-parents. C'est donc véritablement un coup de foudre filial, de type filial.
Et elle est devenue la grand-mère que vous n'avez pas connue.
Exactement.
Jusqu'à sa mort en 2001. Merci Claudine Monteil. On se retrouve demain et demain nous parlerons de l'action que vous avez menée au MLF, au Mouvement de Libération des Femmes, et à l'évolution du féminisme.
Oui. Merci.
Vaste projet. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Julien Girard, réalisation Séverine Cassard, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.